podcast de Visionary Marketing sont à retrouver sur visionarymarketing.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn et Android.
Henri Berny, bonjour. On va poser une question pour démarrer. Pourquoi PowerPoint est-il critiqué?
Alors, effectivement, vous avez raison de le dire. PowerPoint est critiqué et puis, objectivement, il est critiqué partout. C'est devenu un peu le grand méchant dans les entreprises. Déjà, il faut savoir qu'il est utilisé partout. Il est utilisé en entreprise, il est utilisé dans les formations, à l'éducation nationale, et il est aussi utilisé maintenant dans les mariages avec toutes les pires pratiques de PowerPoint qui sont souvent réunies. Et PowerPoint s'est attiré les foudres d'à peu près tout le monde, au point qu'il y a même un parti en Suisse qui s'est créé, le parti anti-PowerPoint. Pas mal de grands noms se sont levés contre PowerPoint, notamment plusieurs généraux américains. Ça avait défrayé la chronique il y a quelques temps. Il y a le patron d'Amazon aussi qui a interdit PowerPoint en interne. Bref, les critiques sont partout, au point quand on les écoute, on se demande si PowerPoint ne serait pas l'ennemi public numéro un. Moi, je me dis que si Greta Thunberg nous annonçait demain qu'en fait PowerPoint était responsable du réchauffement climatique, je ne serais même pas étonné, quoi. Alors, la vraie question, c'est de savoir est-ce que ces critiques sont justifiées. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une présentation, il faut distinguer deux types de personnes, les auditeurs et puis le présentateur, ceux qui écoutent et puis celui qui parle. Et généralement, on le sait tous, ce qui se passe les auditeurs d'abord, c'est que la présentation, elle est clairement ennuyeuse. Souvent, elle est incompréhensible. Et puis, on a l'impression de perdre son temps. Alors, ça, c'est quand on se passe du côté des auditeurs. Mais il ne faut pas oublier le présentateur, parce qu'en fait, lui aussi, il en est assez victime. Parce que pour lui, créer une présentation, c'est assez laborieux, voire clairement laborieux. C'est gênant parce qu'il a du mal à parler avec son support. Il se retrouve à devoir lire son texte et ça met un peu mal à l'aise. Et puis en plus, c'est chronophage, ça lui fait perdre un temps fou. Donc on se demande dans ces circonstances, mais pourquoi on continue à faire des présentations, en fait? C'est une vraie question. Et donc pour essayer de résoudre ces problèmes dont on vient de parler, il y a tout un tas de conseils qui sont donnés sur Internet, parce que tout le monde est conscient du problème, donc tout le monde essaye de s'améliorer. Et alors chacun y va de son conseil un peu bullshit. Alors on va dire pas plus de 15 mots. Il y en a un autre qui va dire non, pas plus de 10 mots, 4 mots maximum. Et c'est vraiment, on y va, une idée par slide, le taille de texte 30 minimum, voilà, etc., etc. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte qu'en utilisant tous ces conseils, alors, quels sont les... toujours pas à faire une présentation vraiment efficace. Et en fait, si on n'arrive pas... si on n'y arrive pas, c'est parce qu'en fait, on ne traite pas le vrai problème. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, pour les auditeurs, c'est ennuyeux et pour le présentateur, c'est laborieux. Mais en fait, le problème de fond derrière, c'est qu'il n'y a pas de scénario dans une présentation. On ne sait pas où on va et pourquoi on y va. Donc du coup, on ne sait pas comment le faire quand on est présentateur, comment s'y prendre. Et puis pour l'auditeur, c'est ennuyeux. Après, on a dit que c'était gênant pour le présentateur, qui a du mal à parler avec son support, et que le résultat, c'est que c'était incompréhensible pour les auditeurs. En fait, le problème, c'est qu'il y a une concurrence entre l'orateur et son support. Voilà, le support se suffit souvent à lui-même, du coup, le présentateur est en trop. Et puis le troisième point, on a dit que c'était chronophage pour le présentateur et que c'était une perte de temps pour les auditeurs. La question, c'est que de toute façon, faire une présentation, ce sera toujours long. Et si on veut qu'elle soit bien, ce sera vraiment long. Donc la vraie question, c'est surtout celle du retour sur investissement. Si on y passe du temps, d'accord, mais il faut que ça rapporte derrière. Et s'il y a un vrai retour sur investissement, c'est-à-dire qu'il y a une vraie valeur. Et donc les auditeurs n'auront pas l'impression de perdre dedans. Donc en fait, il y a trois points de fond. C'est le scénario, la concurrence entre l'orateur et son support, et puis le retour sur investissement. Et ça, on comprend bien que ces trois points-là, je viens de le dire, ce sont des problèmes de fond. Et donc on ne va pas les traiter avec des mesurettes du type « quelle taille de police utiliser ?». Et ce problème de fond, je vais vous le donner. Ce problème de fond, c'est qu'on a tendance à croire quelque chose qui est totalement faux et qui est rentré un peu dans la norme. Et je vais vous le dire, c'est que PowerPoint, ce n'est pas une présentation. Et je vais le redire parce que c'est très important. PowerPoint, ce n'est pas une présentation. PowerPoint, c'est un support qui vient aider une présentation. Parce qu'une présentation, c'est quelqu'un qui parle. Et il peut parler avec un produit dans les mains pour présenter son nouveau produit. Ou alors, il peut parler avec un tableau noir, une craie, et puis écrire lorsqu'il en a besoin. Ou alors, il peut parler avec un PowerPoint. Mais PowerPoint, ce n'est pas une présentation. Et ça, c'est certainement le point fondamental à comprendre, parce que si on considère que PowerPoint est une presse, et c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un « fais-moi une présentation », il comprend « fais-moi un PowerPoint ». Quand on vous dit « envoyez-moi votre présentation », en fait, nous, on entend « envoyez-moi votre PowerPoint ». Et du coup, le premier réflexe quand on nous demande de faire une présentation, eh bien, c'est d'ouvrir PowerPoint et puis de commencer à travailler. Or, PowerPoint, ce n'est pas un logiciel qui a été fait pour nous aider à réfléchir ni à penser. Donc, si on ouvre
alors, comment fait-on pour remettre les choses
en
dans
fait,
l'ordre
notre pensée et faire un bon scénario par un logiciel qui sert juste à fabriquer des slides. Alors, ça devrait être l'inverse. Ça devrait être notre pensée d'abord et PowerPoint qui se conforme à notre pensée. Et donc, ça crée. Et bien, voilà, donc j'y viens d'abord. Là, on vient d'attaquer PowerPoint un peu méchamment, et je voulais juste terminer là-dessus. C'est que on raisonne aujourd'hui selon PowerPoint, et donc ça bloque toute pensée. Ça ne permet pas non plus de réaliser des réflexions, parce qu'une présentation, c'est un argumentaire. Et donc, si on raisonne selon PowerPoint, on ne va plus avoir d'argumentaire, on va simplement avoir une suite de slides qui sont juxtaposés. Ça, ça ne permet pas d'aller convaincre. Donc, maintenant qu'on a dit ça, juste avant de répondre à qu'est-ce qu'il faut faire, c'est de se demander, mais alors pourquoi on continue à utiliser PowerPoint si c'est autant un problème que ça? Mais en fait, c'est que PowerPoint en lui-même, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est la manière dont on le conçoit et c'est la manière dont on l'utilise. Et en fait, critiquer PowerPoint parce qu'il nous aiderait pas à réfléchir, c'est un petit peu comme accuser un marteau de pas savoir visser une vis. C'est juste qu'il est pas fait pour ça, en fait. Donc, d'une part, PowerPoint n'est pas fait pour ça, mais d'autre part, si on l'utilise efficacement, ça devient un outil extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on soutient un discours avec un visuel, l'impact est beaucoup plus élevé qu'avec un discours seul. Ça, tout le monde l'a bien compris, on est dans l'ère de l'image. Les publicitaires le font tous les jours. Il suffit de regarder certaines avenues à New York avec le nombre de vidéos et d'affiches partout pour comprendre que l'impact de l'image est réel. D'ailleurs, on comprend beaucoup plus vite une image que des textes ou que simplement de la parole. Tout simplement parce qu'on apprend à voir avant de parler. Donc l'importance de PowerPoint, du visuel, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Donc la vraie question, c'est comment on va faire, effectivement, pour utiliser cet avantage de PowerPoint, mais sans tomber dans les travers. Alors, pour ça, justement, il n'y a pas de petite mesurette qui existe. Bien sûr, il y a des choses à respecter. Le fait qu'on puisse utiliser, on le disait tout à l'heure, la police 30 minimum, qu'on puisse utiliser une police qui puisse être vue. Mais là encore, il faut se méfier des mesurettes. Quand on dit la police 30, par exemple, ça ne veut rien dire. Parce qu'en fonction de la taille de la slide, si elle fait 1920 pixels ou si elle fait de large, ou si elle fait 2500 pixels de large, ou si elle fait 10 000 pixels de large, eh bien une même taille de police pourra paraître tout petit ou très grosse. En fait, la taille de police, elle est relative à la taille de la slide, donc ça ne veut rien dire. Et puis, si c'est une présentation en one-to-one, où on est à un mètre de distance, ce n'est pas la même chose qu'une présentation sur une télé de taille moyenne dans une salle où il y a 50 personnes. Donc là encore, il faut s'adapter au contexte. Donc les mesurettes, c'est bien pour nous donner un peu des rappels, un peu des, on va dire que ce sont des pansements sur une jambe de bois. C'est de dire, oui, attention, il faut que ce soit visible. Ça, on peut le retenir, bien sûr. Quand on dit une idée par slide, c'est une absurdité. Parce que si on fait une idée par slide, et ben ça va, le résultat, ça va être une slide, une idée, puis une slide, une idée, puis une slide, une idée. Et à la fin, on a un paquet d'idées, mais on n'a toujours pas un raisonnement. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est pas trop de contenu sur une slide. Oui, c'est vrai. Voilà. Globalement, nous, ce qu'on dit, c'est que pour faire une présentation efficacement, il faut prendre les choses dans le bon ordre et on va donner quatre grands points. Je vous les donne d'abord et puis ensuite, on rentre dans le détail. Le premier, c'est réfléchissez d'abord. Voilà. D'abord, on réfléchit. Le deuxième point, c'est qu'on structure la présentation. Le troisième point, c'est qu'on va scénariser. Et enfin, et seulement enfin, on va produire. Alors, je vais les, je vais le faire rentrer un petit peu dans le détail, dans l'ordre. Je disais, le premier point, c'est de réfléchir. Alors réfléchir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on fait une présentation, on doit avoir un objectif précis à atteindre. Et alors ça, je peux vous dire par retour d'expérience, parce qu'on travaille pour de nombreux grands groupes, que derrière les présentations qu'on nous soumet, la plupart du temps, il n'y a pas d'objectif précis. Voilà. Pourquoi vous présentez vos résultats en fin d'année ? Ah ben parce que c'est pour parler à nos actionnaires. Oui, mais pourquoi ? Ben parce que c'est une obligation légale. Ça, c'est pas un objectif. Un objectif, ça va être, moi, je suis par exemple un grand groupe, imaginons, on va dire, je suis LVMH, et je présente mes chiffres. Pourquoi ? Ben parce que j'ai un secteur d'activité qui est en chute libre, et à côté, j'ai un petit secteur d'activité qui est en train de monter. Et mon objectif, c'est de prouver que ce secteur d'activité qui est en chute libre, c'est parce que je l'ai délaissé volontairement, parce que c'est plus un secteur d'avenir, mais que celui qui est en train de monter, qui est petit aujourd'hui, mais qui demain va être très grand, et que lui, c'est un marché d'avenir, et que j'ai mis tous mes efforts dessus. Voilà. Là, il y a un objectif précis. Donc, d'une part, on prend l'objectif, et ensuite, on va réfléchir à trouver les arguments qui permettent d'atteindre cet objectif. Donc, on pose toutes nos idées, et tout ce qui n'est pas des arguments qui permettent d'atteindre cet objectif, on les supprime. Pareil, l'objectif à atteindre, on atteint un objectif vis-à-vis d'une cible, ou de plusieurs cibles. Et on va le faire dans un contexte donné. Donc le contexte, ça peut être soit, donc je l'ai dit tout à l'heure, en one-to-one, dans une grande salle, ça peut être avec différents types de profils, etc. Tout ça, on doit le prendre en compte. Et toutes les idées qu'on a listées, on supprime toutes celles qui ne permettent pas d'atteindre la cible pour les convaincre de l'objectif dans le contexte donné. Mmh. Alors ça, c'est un gros écrémage, et ça, c'est un petit peu douloureux, parce que ça oblige à ne pas dire tout ce qu'on avait envie de dire.
C'est un peu comme quand on fait un cours et qu'on le découpe en morceaux.
Et ben en fait, on n'a pas une idée performante.
Par module.
C'est tout l'inverse. Si on dit des choses qui n'intéressent pas les cibles, qui n'atteignent pas l'objectif et qui est hors contexte, en fait, on est juste en train de se saborder tout seul. Mm-hmm. Ouais, voilà. Et exactement. Voilà, exactement. Donc c'est ça, il faut cibler les objectifs, les cibles et le contexte, et avec ça, garder les arguments qui fonctionnent. Donc, très bien, à la fin de cette étape, on a, on va dire, un petit sac d'arguments bien calibrés et qu'il va falloir utiliser. Et donc, on passe à la deuxième étape où il va falloir les structurer, justement. Et donc là, la structure, c'est le plan. Hein. Quel plan on va faire ? Le plan, c'est simple, on l'a dit, hein. Dans une présentation, il faut atteindre un but. Donc quand on monte un plan pour atteindre un but. Ça veut dire une suite d'arguments qui, étape par étape, arrivent à l'objectif. C'est le principe de l'effet cliqué. Si vous voulez, c'est j'annonce un point. Une fois que ce point est acquis, tout le monde est d'accord ? Oui ? Ok. On peut passer au deuxième point, qui est la suite du premier point. On arrive au deuxième point, il est validé. Ok, tout le monde est d'accord. Ça permet d'aller au troisième point. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au point qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire l'objectif. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va construire un plan efficace pour une présentation. Et ce plan, bien sûr, reprend les éléments qu'on avait définis dans la partie précédente. Une fois qu'on a fait ça, on a donc un plan structuré avec les bonnes informations à passer. Ça ne suffit pas, parce qu'un plan brut, c'est un petit peu austère. Vous voyez, c'est un peu comme un plan militaire. Si on le voit brut de décoffrage, c'est un peu violent. Donc il va falloir aller habiller tout ça, mettre un peu de maquillage pour le rendre un plus agréable. En gros, c'est la main de fer dans un gant de velours. Donc là, on va faire le gant de velours, c'est scénarisé. Alors pour scénariser, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis qu'on va enrober l'ensemble du discours. Scénariser, ça veut dire qu'on va trouver des éléments qui rendent ce discours, cette structure digeste. Ça va être notamment des anecdotes qu'on va rajouter, des blagues, pourquoi pas. Attention que les blagues, si elles ne sont pas drôles, ça peut être dangereux. Des représentations visuelles. On va essayer de trouver une manière de représenter visuellement une information, des images. Et puis à tout ça, on va donner un rythme aussi. On va se rendre compte, ou l'attention dans ma démonstration, ce moment-là, il est un petit peu dur. Peut-être qu'il faut que je ralentisse quand je parle de ça. Ce point-là est très important. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose d'un peu choc à ce moment-là, que je fasse une pause de 10, 15, 20 secondes où je ne parle pas, et les gens se demandent ce qui va se passer, pour insister sur ce point. Voilà, etc., etc. C'est tout le moment où on scénarise, comment on va introduire, aller directement au sujet, etc. Donc ce point-là est assez important. C'est le mot scénariser résume vraiment. C'est mettre un scénario sur, enfin mettre un voilà une histoire sur un scénario un peu brut de décoffrage. Et puis enfin, c'est la dernière étape, c'est celle de produire. Alors quand je dis produire, c'est produire le support qui va nous aider à parler. On le fait, la meilleure solution, c'est de le faire en deux étapes. Il ne faut surtout pas commencer à créer tout de suite ces slides, même à cette étape-là. D'abord, la première chose, c'est de faire une maquette. Une maquette, ça veut dire un PowerPoint sans aucun design, sans aucun texte travaillé, etc. Juste des mots-clés. Et construire sa presse comme ça. Ça permet quoi ? Ça permet de tester son discours avec sa maquette. Et la meilleure des choses, c'est de faire son discours à l'oral, même si on est tout seul, en utilisant sa maquette. Et voir si notre maquette, elle nous aide à faire notre discours, ou est-ce qu'au contraire, elle nous gêne. Autrement dit, est-ce qu'elle représente visuellement ce qu'on est en train de dire, ou est-ce qu'elle dit la même chose que nous ? Voilà. Est-ce que c'est trop long ? Est-ce qu'elle nous oblige à parler trop longtemps ? Ou est-ce qu'au contraire, elle nous permet d'être assez libre et de pouvoir faire des digressions si nécessaire, etc. Et donc on teste sa maquette comme ça. Et on la corrige aussi quand ça va pas. Et une fois qu'on arrive à une maquette, on se dit ok, là c'est bien, ça fonctionne bien, ça nous permet de ça me permet de bien parler. Alors là et seulement là, on peut commencer à mettre en forme notre PowerPoint. Voilà, ce sont les quatre grandes étapes pour faire efficacement une présentation. Je peux donner maintenant quelques éléments. On l'a dit tout à l'heure, en fonction du contexte, attention à ce que vous voulez montrer soit visible. Et là, je précise bien ce que vous voulez montrer. Parce que parfois, on dit il ne faut pas plus de 3 mots, pas plus de 4 mots sur une slide. C'est n'importe quoi. Lorsque vous devez citer une source, par exemple, ben, c'est légal, vous êtes obligé de mettre la source. Bon. Et ça, par exemple, pendant une présentation, vous n'avez pas forcément envie que les gens la voient, la source. Et vous ne voulez pas que ça gêne la visibilité. Donc là, au contraire, vous allez la mettre tout petit, en bas. Alors certes, vous ne serez pas en 30, taille 30 minimum, vous serez bien en dessous. Ce ne sera pas très visible, mais ce sera là. Parce que c'est une information peu importante. En revanche, l'information importante, elle, vous allez mettre en gros. J'ai lu, par exemple, un jour, un conseil, il n'y a pas très longtemps, où on disait qu'il ne faut même pas mettre de logo, il ne faut rien mettre, pour pas que ça gêne visuellement le regard et qu'il n'y ait que les messages qu'on veut faire passer. Bon, c'est totalement absurde, ça n'a aucun sens. Si vous allez sur un site web, il y a plein d'informations. Il y a un logo, il y a un menu, il y a un header, il y a des footers, il y a plein d'informations. Sur le site du Figaro, par exemple, ou n'importe quel autre site, vous allez regarder les informations, vous n'allez pas être perdu. Hein. Et vous allez réussir à lire votre article sans être dérangé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où notre cerveau il a compris qu'une information elle devait être à sa place et qu'elle y est, à partir de là, il la néglige. Donc si dans votre présentation, vous voulez mettre votre logo d'entreprise, vous pouvez le faire. Mettez-le simplement à une place précise, qui ne prenne pas trop de place, et surtout ne changez plus cette place. C'est-à-dire qu'une fois que sur la première slide, ceux qui vous regardent auront compris que le logo, il est, je ne sais pas, en haut à gauche, par exemple, et bien sur la slide suivante, il ne remarquera même plus. Et donc ça ne gênera pas le regard. Même les consultants ont besoin de se faire accompagner. Parce que dans les boîtes de consultants, en fait, ils pondent de la slide au kilomètre. Mais, vous savez comment ça se passe ? Ils ont des centaines de slides préfaites qu'ils récupèrent, sur lesquelles ils changent des informations et qu'ils assemblent. Généralement, leurs presses sont pas extrêmement bien structurées. Donc, effectivement, ça peut être un bon point de se faire accompagner si la présentation le nécessite. C'est-à-dire que si l'investissement en vaut la chandelle. Et oui, ça prend du temps. Et je l'ai dit au départ, faire une bonne présentation, c'est toujours chronophage. Et j'avais aussi dit, ce qui compte, c'est le retour sur investissement. Je peux vous donner un peu un ordre d'idée, hein, mais sur une présentation, on va dire, très importante, d'une trentaine de slides, par exemple, je ne sais pas, imaginons un lancement de produit d'une marque de luxe qui lance un nouveau produit, par exemple. Ou un lancement d'un smartphone, on l'a fait récemment, nous, là, pour une grande marque, le lancement d'un smartphone au niveau européen. L'enjeu est énorme. Donc là, on va pouvoir se permettre de travailler vraiment. Sur une présentation de 30 slides, en fonction de la difficulté et de l'enjeu, le conseil, pour des gens qui ont l'habitude de le faire, par exemple chez Pressman, c'est ce que nous faisons tous les jours, on va compter 2 jours de travail pour fabriquer la maquette. deux jours et demi. Sur un très gros projet, on peut passer à quatre jours, mais c'est assez rare. Et ensuite de ça, il y aura la production design. Et là, sur une trentaine de slides, il faut compter 4-5 jours. Finalement, on est sur des délais qui ne sont pas si longs que ça. Pour faire une excellente presse de 30 slides, une semaine et demie est suffisant.
Podcast de Visionary Marketing sont à retrouver sur visionarymarketing.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn et Android.